Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Un petit mot de l'Ukraine quand même, avant de passer à nos carnets de campagne. Charles Villeneuve, on n'a pas parlé des entreprises françaises.
Hein, alors moi j'ai été quand même abasourdi d'entendre le président, le président ukrainien Zelensky, quand il s'est adressé aux assemblées françaises.
À l'assemblée mercredi.
Oui. Ne dénoncer, c'est la première fois qu'il dénonçait des entreprises, et uniquement françaises d'ailleurs, qui devaient se rapatrier et fermer leurs portes
en Russie.
Je vous rappelle simplement que le premier employeur étranger en Russie, c'est les Français. Il y a près de 150 000 salariés qui seront au chômage si nous fermons tout. Le roi Merlin, résiste, mais Renault
suspend.
Plie bagages. Et comme par hasard, il n'y a que des entreprises françaises. Pourquoi Zelensky n'a pas de toute façon dénoncé aussi des entreprises différentes
Oui, mais enfin, les Allemands sont aussi implantés en Russie, et devant le Bundestag, là, il a plutôt parlé, il a demandé au chancelier d'être courageux, de faire tomber un mur, parce qu'au départ, les Allemands lui avaient envoyé des casques et rien d'autre, et ont mis du temps à lui envoyer des armes. Donc, pour chaque pays, il a un message différent, il fait de la morale, il les secoue, enfin. C'est vrai qu'il voudrait aussi que Total parte. Et monsieur Pouyanné a dit qu'il n'est pas question de laisser les infrastructures après aux oligarques. Hein, donc, c'est très bien. Et puis ça, sur le gaz, c'est une décision d'État. Il dit, moi, je ne m'en irai que si l'État me le demande. Et là, Emmanuel Macron, qui trouve que Renault, c'est cohérent de s'en aller, mais là, il ne dit rien sur Total.
Oui, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est qu'allons jusqu'au bout de la logique de ce qu'on vient de dire, de ce que Charles a dit sur Zelensky. C'est à la fois un homme admirable, un patriote qui restera dans l'histoire, effectivement, comme le
héros
grand
de la nation,
de sa nation. En même temps, on ne peut pas empêcher qu'il y a des pesanteurs politiques et économiques qui font que cet homme, aujourd'hui, est largement dépendant, ne serait-ce que pour le soutien militaire, le soutien des missiles des États-Unis d'Amérique, et qu'il son exigence est à la hauteur, effectivement, de cela. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, lui sont beaucoup moins importants. Donc, on peut se permettre d'être très exigeant avec les Français. Mais je trouve que là, le président de la République a été plutôt... Il a fait du en même temps. A fait du en même temps, puisqu'il a fait un coup pour Renault et un coup pour les autres. Mais je pense que beaucoup de boîtes américaines, pétrolières notamment, sont encore loin d'avoir complètement quitté le champ.
Alors que Jadot dit, regardez, donne des leçons, traite Total de criminel de guerre, les Américains qui sont là, les trois marques américaines qui sont là, ont dit qu'ils envisageaient de partir depuis longtemps parce qu'ils n'ont pas les contrats qu'ils voudraient. Mais pour l'instant, ils prendront leur temps et n'en partiront pas.
Alors, passons à nos carnets de campagne, si vous voulez bien. Carnet de campagne, non pas de compagne, ça n'a rien à voir. 10h35, avec un coup d'œil sur les sondages. D'après le dernier Rolling Ifop d'hier à 18h, nous sommes à 28% pour Macron, 20,5% pour Marine Le Pen, 14% pour Mélenchon, 11,5% pour Pécresse, 11% pour Zemmour, 5% pour Jadot, 3,5% pour Roussel, 2% pour Hidalgo. Donc, en résumé, un reflux d'Emmanuel Macron, une remontée de Marine Le Pen. Ce duel d'ailleurs se confirme au second tour, et une dynamique Mélenchon qui apparaît comme le troisième homme, Gérard Carrérou.
Oui, en fait, de ces sondages quotidiens, c'est d'ailleurs extraordinaire cette campagne, puisqu'on a tous les jours maintenant un nouveau sondage.
On appelle ça les Rolling.
Mais ces Rolling qui ne sont pas Stone, c'est dans ces, Rolling, nous avons.
Il fallait la faire, merci.
Nous avons,
Satisfaction.
Non, nous avons.
On va la passer.
Soyons sérieux, nous avons un double mécanisme de vote utile qui. Avantage pour l'instant, alors ça peut encore changer dans les deux semaines, mais un double mécanisme de vote utile qui avantage Marine Le Pen à droite, incontestablement, et là elle bénéficie effectivement de gens qui étaient plutôt pour Zemmour ou pour Pécresse, qui voyant effectivement les scores de Zemmour-Pécresse autour de 10 points, 10-11 pour l'un ou pour l'autre, ça va, ça vient, mais peu.
Mais pourquoi vous dites vote utile? Ça veut dire que c'est un mélange de Pécresse et de Zemmour,
utile.
Marine
Écoutez,
Le Pen.
Essayez de vous mettre une seconde, je ne vous demande pas si c'est... Mais dans la tête d'un électeur de Zemmour, par exemple.
D'accord.
Un électeur de Zemmour qui a cru, formidable, Zemmour, etc., l'émigration, machin. Il voit aujourd'hui Zemmour à 11 points et il voit Marine Le Pen à 20 points. Et il se dit quand même, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Je fais réélire Macron ou quand même, bah, c'était pas mon chouchou, j'aime pas trop Marine Le Pen, mais quand même, elle est plus proche de moi. Mmh. Donc, et c'est ça le mécanisme de vote utile. Et chez Mélenchon, c'est symétriquement la même chose. Vous avez des, je l'ai souvent dit ici, il y a un peuple de gauche. Peuple de gauche, il a une demi-douzaine de candidats. Il en a à 2% comme la maire de Paris, et puis il en a à 6% comme Jadot, et il a Mélenchon. Il se dit, bah, au moins si je pouvais espérer qu'un candidat de gauche arrive vers le deuxième tour, du coup, il a tendance également à ce vote utile à gauche.
Charles.
Oui, moi, je voudrais faire deux remarques. D'abord, sur le relatif tassement du président de la République, oui. Qui est parti de
jusqu'à 35,
de 30, ouais. Et quelques,
ouais. Pic de 31-32% et qui est revenu à 27-28. Oui. Moi, je trouve que ce petit tassement provient d'une désinvolture, d'un désintérêt des grands sujets habituellement qui font le menu des présidentielles, et qui forge le sentiment que le candidat Emmanuel Macron ne prend pas au sérieux ce qui est la clé de voûte du régime présidentiel. C'est le président de la République, c'est quand même, si j'ose dire, le taulier du régime. Et ce taulier, de toute façon, ne traite pas des affaires internes, des affaires de ses ouailles, c'est-à-dire des affaires du peuple français, par rapport à cette élection qui est l'élection quand même impériale, en quelque sorte, du système politique français. C'est-à-dire les élections présidentielles. Et ça touche une dimension psychologique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'interroge, et je pense que même au sein de La République En Marche, on s'interroge sur l'inactivité, en quelque sorte, du président par rapport à tous ces grands sujets.
Qui justifie par son agenda international, par la guerre en Ukraine.
Ce que disait... Bon, on peut comprendre que son agenda international, de toute façon, l'occupe, certes. Mais il y a quand même les élections présidentielles, nous sommes à moins de 15 jours de ces élections présidentielles du premier tour. Et ce que disait sur Marine Le Pen, Gérard, elle profite de sa bonne campagne, de son expérience des présidentielles et surtout d'avoir très très bien axé sa campagne sur le pouvoir d'achat et les questions sociales. Et de la même manière que Mélenchon a réussi, malgré la guerre, malgré toutes les préoccupations que nous avons sur le plan international, à ramener sur les questions sociales, avec son talent, qu'il ne faut pas oublier, son expérience lui aussi, comme Marine Le Pen, de toute façon, à des scores qui sont aujourd'hui, qui constituent une dynamique.
Catherine Ney.
Oui, Marine Le Pen, qui est à 20%,
et 20,5%,
et Emmanuel Macron, montre qu'elle a un socle qu'elle a conservé, même qu'elle a amélioré, en choisissant une stratégie de deuxième tour, de rassemblement. Et j'avais vu son père qui m'avait dit, mais finalement, à un moment où Zemmour était très haut, il avait dit non, parce que maintenant, pour les gens, l'extrême droite, c'est Zemmour. Donc, elle ne fait plus peur. Bon, elle est encore handicapée par le fait qu'elle s'appelle Le Pen et que c'est une immatriculation qui pèse lourd. Mais là, elle a fait une campagne pour les gens de terrain, c'est-à-dire celle que ne fait pas le président, mais pour des raisons, il a quand même des excuses. Et on voit dans les intentions de vote par catégorie socio-professionnelle, vous voyez les CSP+, on disait là, elle est très mauvaise. Mmh. Mais elle a quand même 14,5%. C'est plus que Zemmour qui a 12 et plus que Pécresse, qui pourtant, elle, CSP++, vous voyez.
Ouais.
Bon, dans les professions intermédiaires, elle fait 16%, alors que Valérie Pécresse fait 7,5% et Zemmour 11%. Et sur les CSP-, qui était son...
Ben,
c'est
son
vrai qu'elle fait 30, son socle, 30%, 30, Valérie Pécresse, 5, et Zemmour, 13. C'est-à-dire que devant toutes ces catégories socio-professionnelles, elle est devant.
Alors que tu l'as sûrement sous les yeux, Catherine,
oui.
Alors que le président de la République a son socle lui aussi, mais son socle, effectivement, est très différent
sociologiquement. Il est inversé.
Oui. Il est inversé. Oui. C'est-à-dire que si tu prends les catégories ouvriers, employés, petite classe moyenne, etc., tu t'aperçois qu'il
c'est
est,
le haut de la pyramide.
Il est en faiblesse.
Exactement. 10h41, on marque une pause et on revient dans un instant avec nos carnets de campagne.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec aujourd'hui Catherine Ney, Gérard Kerrérou et Charles Villeneuve, Michel Cotta, bien sûr, nous la retrouverons avec grand plaisir la semaine prochaine. On parlait de nos carnets de campagne, on a parlé de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Il y a quand même deux phénomènes qui étaient tout en haut. À l'automne, souvenez-vous du phénomène Zemmour et puis de la percée Pécresse, là, Charles Villeneuve, tout d'un coup. Bah, c'est plus que c'était.
Bon, mais Pécresse ou Zemmour?
Je sais pas. Les deux. Commencez par qui vous voulez.
Écoutez, moi, Pécresse, elle fait la campagne présidentielle à l'identique de ce qu'elle est, je trouve.
C'est-à-dire?
Sérieuse, gestionnaire, excellente débatteuse, le prototype de la bonne élève, celle que nous avons tous côtoyée à l'école communale, si vous voulez, qui était toujours dans la botte.
Mais elle ne crève pas l'écran. Ouais.
Oui, non, mais celle qui se classe toujours dans les trois premières au concours d'entrée des grandes écoles, qu'elle a fait d'ailleurs, mais sans vision de la France, sans flamme, sans idée directrice. On ne sait pas exactement sa vision de la France, parce que l'élection présidentielle, il faut toujours une idée par rapport à ce qu'on veut faire, centrale, qui structure votre discours. Et quant à Zemmour, sa ligne de départ consistait, rappelons-nous, à être le trait d'union entre les Républicains et toute la droite, et le Rassemblement national. Or, moi, ce que je ne m'explique pas chez lui, c'est une énigme, parce qu'il est suffisamment structuré, intelligent, cultivé, pour le savoir, c'est qu'il a passé 20% de son temps à déraper. Et c'est ce qu'il a profondément affaibli.
Parce que la politique est un métier, monsieur.
Oui, non mais peut-être qu'il est plus idéologue que politique.
Est-ce que Valérie Pécresse a eu tort de se positionner sur une campagne contre? C'est-à-dire que, souvenez-vous, ses premiers élans, ça a été Emmanuel Macron est le président ou le candidat du plaire, moi je suis la candidate du faire.
Ça voulait pas dire, franchement, entre nous,
ça ne voulait pas dire grand-chose.
Je suis le candidat du faire. Tout le monde fait quand on est président, il est bien obligé de faire. Donc, dont elle ne s'est jamais remise, c'est de cette idée, depuis le début, c'est comme ça. Depuis le début, on dit qu'elle pourrait être, au fond, elle ferait une bonne première ministre d'un Macron réélu. Et cette image, ça veut dire quoi quand les
gens
pensent
ça? Il y a eu des exemples comme ça dans le passé aussi.
Ça veut dire qu'il y a une telle ressemblance. On parlait tout à l'heure de la sociologie de l'électorat avec Catherine. C'est très exactement quand on regarde la sociologie de son électorat potentiel, de ceux qu'il aime bien, de ceux qui l'apprécient, on retrouve les mêmes valeurs que pour Macron. Et ça, effectivement, dans une élection où il y a des candidats qui ont des marqueurs très forts anti, genre Zemmour ou d'autres, effectivement, ça ne lui facilitait pas la tâche. Quant à Zemmour, effectivement, il a été victime de Poutine et de lui-même. De lui-même d'abord, par toutes ses erreurs répétées, notamment la dernière en date sur les enfants, sur les réfugiés, et de Poutine, parce que le positionnement de Zemmour disait en géopolitique sans arrêt qu'on devrait se rapprocher de la Russie. Quand la Russie fait la guerre à l'Ukraine, ça tombe à plat.
Catherine.
Oui. Moi, je crois le problème de Valérie Pécresse, parce qu'elle a eu un moment de grâce le soir de son succès à la primaire, où elle n'était pas arrivée première, mais là, elle était un peu transfigurée. Il y avait un moment de chaleur où tout le monde était autour d'elle et on s'est dit, tiens, ça va faire une équipe, elle va choisir et on va enfin la connaître. Eh bien, les Français ne l'ont jamais rencontrée parce que d'abord, ils ne la connaissaient pas au départ. Ça, c'est vrai, elle est parisienne. Donc, ils se sont dit, bien sûr, c'est une femme capable, mais qui est-elle? Elle n'a pas donné d'elle-même. On ne sait pas quelle est la personnalité. C'est une jolie femme, mais qui n'a pas ce charme qui vous attire et qui vous amène vers elle. Parce que d'abord, elle a manqué, non pas d'humilité, mais quand elle a dit pour son premier discours raté, où elle dit maintenant, je dois me donner au peuple de France. Bon, encore faut-il que le peuple veuille, vous voyez, on ne se donne pas comme ça. Donc elle a un peu raté parce qu'elle a cherché des mots, elle n'avait pas été elle-même. Et voilà, et je crois que c'est ça, c'est un grand ratage de communication, sinon de compétences.
Hier, dans ce studio, Éric Woerth, qui a rejoint Emmanuel Macron, me disait Valérie Pécresse, j'y crois pas parce qu'elle est otage d'Éric Ciotti et de Laurent Wauquiez. Oui? Non?
Non, je crois qu'elle est otage d'elle-même parce qu'elle n'est pas sortie, elle n'a pas sorti ses tripes. Voilà, elle a été toujours, c'était à l'étage supérieur, elle a été dans l'intellect et on n'a pas senti la patte humaine de cette femme. Voilà. Vous voyez, Marine Le Pen, au bout de trois fois, on sait qu'elle en a bavé, qu'elle a souffert, qu'elle recommence. Il y a un parcours qui fait partie de ces vieilles bêtes politiques auxquelles les gens disaient c'est peut-être son tour. Enfin, je ne dis pas du tout qu'elle va être élue, je ne dis pas ça, mais c'est ce qui lui permet de remonter alors qu'on croyait qu'elle allait descendre.
Mais la minute de grâce que tu rappelais de la soirée, effectivement, où elle a gagné la primaire, a été immédiatement lessivée par les cinq premières minutes de son grand meeting.
Oui, oui.
J'ai appelé Charles, c'est pas un secret d'État, j'ai appelé Charles, je lui ai dit tu regardes,
Qu'est-ce que je t'ai répondu?
Tu m'as dit la même chose.
Mais alors, je vais même vous faire une confidence, c'est qu'au bout de 5 minutes, le président a appelé un ami pour lui dire, bon, surtout, donnez les consignes, que personne ne réagisse en marche. Il faut la laisser parce que sinon elle sera victimisée. C'est foutu.
Il a appelé son conseiller, l'un de ses conseillers politiques, Thierry Soler, qui a passé sa journée à appeler tout le monde pour qu'il se taise et pas en faire une victime. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire aussi que la guerre à nos portes a profité au président de la République.
Oui.
Et ça a complètement changé de toute façon.
Ça n'a pas aidé Valérie Pécresse.
La compétition, ça n'a aidé personne.
Oui, mais est-ce que cette guerre, est-ce qu'elle profite au président ou est-ce qu'elle lui nuit?
Non, elle profite jusqu'à présent. La preuve, c'est qu'il y a eu un plus, notamment traduit par les sondages quotidiens.
Mais vous venez de dire qu'il ne s'est pas occupé de la campagne et que assez.
Oui, mais au bout d'un certain temps, on en revient au problème du jour, c'est-à-dire à nos préoccupations.
Donc ma question va se poser.
Oui, on en revient au problème de la fin du mois. Parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, la politique internationale, une campagne française. Et si ça dure, la guerre, effectivement...
C'est bien pour ça que je vous posais la question.
11h-10, dans un instant, on parle de la Corse. Restez avec nous.